au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous recevoir sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouveau Au fil des pages qui nous donne le grand plaisir de recevoir le docteur Jacques-Antoine Malarevitch qui vient de faire paraître chez Personne les personnalités difficiles en entreprise, analyse et solutions. Docteur, bonjour. Heureux de vous recevoir. Je sais que vous êtes très, très occupé. Très brièvement, on va peut-être rappeler votre parcours. Vous êtes médecin, psychiatre et consultant en entreprise. Vous partagez votre activité depuis 20 ans entre les interventions en entreprise, la formation et la supervision de consultants. Et vous avez votre propre cabinet de psychothérapie. Vous êtes particulièrement le spécialiste de l'approche systémique et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages de référence. Ils sont notamment parus chez Personne, Systémique et Entreprise, Réussir sans coaching et Gérer les conflits au travail. Donc on est déjà en plein dans le thème. Alors, vous dites dans cet ouvrage que le cadre professionnel est l'un des principaux contextes où se joue la santé mentale de chacun.
Oui.
Des personnalités difficiles en entreprise, on en connaît tous, on est peut-être soi-même quelquefois.
On risque de le devenir, effectivement, dans certains contextes.
Alors, comment devient-on ou quels sont les signes caractéristiques d'une personnalité difficile en entreprise?
Alors d'abord, la définition, par définition, est déjà difficile à donner. A priori, quelqu'un difficile pose problème. Une des caractéristiques de la personnalité difficile en entreprise, comme ailleurs d'ailleurs, c'est qu'elle ne semble pas en souffrir de ses difficultés. Et elle semble s'obstiner dans les mêmes comportements, dans les mêmes façons d'être, ce qui évidemment pose problème à l'entourage, dans la mesure où, en entreprise en tout cas, ces personnalités, je dirais, ne rentrent pas dans le rang, c'est-à-dire posent problème pour elles-mêmes et surtout pour leur entourage. C'est-à-dire que, eu égard à ce qu'est une entreprise, c'est-à-dire qu'a priori, ça doit être quelque chose qui fonctionne, elles sont précisément difficiles à supporter. La difficulté aussi, c'est que les entreprises génèrent elles-mêmes beaucoup de souffrance, beaucoup de stress, ce qu'on appelle le stress habituellement. Et donc, à partir d'un certain moment, on ne sait pas où est la frontière, c'est-à-dire est-ce que la personne est en difficulté, je dirais, par elle-même, ou est-ce que ces difficultés sont générées essentiellement par son contexte de travail? Et ça, c'est une grosse difficulté.
Alors, vous dites dans cet ouvrage que la souffrance psychique n'est pas prise en compte de manière pertinente dans notre société. Deux raisons à cela, je vous cite. D'une part, un environnement où le bien-être mental est difficile à maintenir avec une politique de prévention qui est souvent négligée. Et d'autre part, les professionnels experts du sujet se raréfient. Alors donc, on a un déficit en matière de spécialistes.
Depuis environ une vingtaine d'années, on a supprimé environ la moitié des lits de psychiatrie. Les psychiatres eux-mêmes, comme certains autres spécialistes, diminuent en nombre. À l'horizon 2020, il y en aura 40% en moins que maintenant. Les pouvoirs publics peinent à ordonner la profession de psychothérapeute. Et ce qui, je crois, aussi pose problème, et ce qui est spécifiquement français, c'est qu'on utilise en France deux fois plus de psychotropes, c'est-à-dire de médicaments antidépresseurs, anxiolytiques, que dans les autres pays d'Europe. Donc, cette souffrance psychique est fréquente, elle se présente de bien des façons, elle n'est plus prise en charge ou difficilement prise en charge par des professionnels formés, ou alors elle l'est uniquement par des médicaments, ce qui est quand même assez réducteur.
Alors, vous dites que quelque chose sur lequel on va peut-être faire un développement sur l'actualité, mais il faut surtout ajouter à cela que le seuil de perception de la douleur, quelle que soit sa nature, a sensiblement baissé depuis quelques décennies.
Oui.
Il en résulte que tout un chacun perçoit avec plus de rapidité et d'intensité ce qui lui semble être une souffrance. Il est alors tentant de demander une aide ou pire, d'exiger comme une évidence une réparation face à ce qui est ressenti comme un motif de victimisation. Et là, bien entendu, je peux... D'abord, je vais vous laisser développer ce point, mais peut-être pourrons-nous éclairer votre argumentation avec l'actualité, notamment celle de France Télécom, puisque c'est le sujet du moment.
Tout à fait. Effectivement, le seuil de perception de la douleur a beaucoup diminué. Alors, aussi bien la douleur physique que la douleur psychique, dans la mesure où il est facile de les dissocier. Les deux premières classes de médicaments qui sont prescrits en France sont les antalgiques, donc douleur physique, et les psychotropes. Ce sont de loin les deux premières classes de médicaments qui sont utilisés. Autrement dit, nous sommes dans une société où l'on souffre facilement et où on essaie de trouver une réponse rapide, probablement assez simple, assez simpliste dans bien des cas, à cette souffrance. Surtout, il faut ajouter à cela l'individualisme, c'est-à-dire qu'avant, disons, il y a quelques dizaines d'années, on appartenait bien plus à un groupe. Et le groupe, quelle que soit sa taille, la famille, le couple, le clan, la profession, le métier, permettait en quelque sorte de mieux vivre des situations difficiles. Maintenant, l'individualisme de chacun fait que chacun est donc par définition juge et partie de sa propre souffrance. Et vous avez aussi utilisé ou rappelé un terme important, c'est la victimisation également. C'est-à-dire on est tous dans notre société victimes de quelqu'un parce que c'est devenu une façon d'être, une façon d'exister. J'existe parce que je suis la victime de quelque chose ou de quelqu'un. Et ce quelque chose peut être totalement anonyme, comme par exemple l'entreprise, comme par exemple la hiérarchie. Et dès lors, ça devient quelque chose d'insupportable, qui réclame réparation. Et là, on rentre dans quelque chose qui, je crois, est assez fréquent dans notre société.
Et alors, cette évolution, les causes principales, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est une tendance générale, comme vous le disiez dans votre ouvrage, une sensibilisation plus forte à la perception de cette
douleur.
De cette douleur, ou est-ce aussi une forme d'effet de mode ou de tendance à la judiciarisation?
Alors, l'effet de mode, ou en tout cas la médiatisation de la souffrance, de la victimisation, renforce ce mécanisme. C'est-à-dire, on existe d'autant plus qu'on est victime, et on peut, à la limite, aussi en faire état. C'est-à-dire, je suis toujours surpris par la façon dont il est facile pour certains de nos contemporains d'assister à des émissions de télévision, notamment, où ils peuvent se plaindre de ce qu'ils vivent, comme si c'était quelque chose de rédempteur, en fait. Parler de sa souffrance est devenu rédempteur. Et de là à, entre guillemets, faciliter sa souffrance, en tout cas être très proche de sa souffrance, et donc la nourrir, en quelque sorte, il n'y a pas le moins. Donc, effectivement, il y a une façon d'exister qui est proche pour certains, c'est... Je souffre, donc je suis, donc j'existe.
Alors, compte tenu de ce que vous venez de dire, on va braquer le projecteur pendant quelques instants sur l'actualité et particulièrement sur celle de France Télécom, où il y a eu effectivement cette série extrêmement dramatique de suicides. Alors, on a entendu plusieurs choses. La parole des syndicats qui ont fait un lien direct avec le mode de management et donc ces drames. Et puis, par ailleurs, celle de vos confrères qui se sont exprimés. D'ailleurs, les médias en ont tenu compte en disant qu'en fait, il était très difficile de ne pas voir dans ce genre de série dramatique aussi des éléments, en quelque sorte, d'animation par les médias, de ressenti par les plus faibles, et qu'il est très, très difficile de faire un lien direct entre des actes de management et les conséquences. Le lien de causalité n'est pas démontré. Alors, je sais bien, j'imagine que vous n'êtes pas dans le dossier, mais en tout cas, au moins, comme tout un chacun, mais plus expert que tout un chacun, quelles sont vos grandes remarques sur ce sujet?
Alors, j'ai deux types de réponses, puisque je suis psychiatre et consultant. Donc, le psychiatre ne peut que dire, comme tous mes confrères, que on ne se suicide pas pour une seule raison, ça c'est évident. Ceci dit, dans la vie de quelqu'un, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup d'investissements affectifs, etc., etc. Donc il peut y avoir pour tout un chacun une espèce d'accumulation de faits, d'échecs, de souffrances qui fait qu'on peut en arriver là. Alors tout le problème est, je vais dire ça de façon peut-être un peu provocante, mais quelle est la goutte qui fait déborder le vase en quelque sorte? Et c'est vrai que là, en tant que psychiatre, on sait bien que, je dirais, un certain nombre d'événements peuvent constituer ce qui fait déborder et ce qu'on appelle passer à l'acte. Alors c'est vrai que, là c'est plutôt le consultant qui parle, les conditions de travail en général, dans toutes les entreprises, sont devenues de plus en plus difficiles. Il y a une cause immédiate, c'est la crise. c'est évident. Et puis, il y a des causes plus profondes, plus anciennes. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire tous les référentiels qui faisaient qu'on pouvait aussi
vivre... absorber.
Absorber, c'est-à-dire de nouveau le couple, la famille, le clan, etc., etc. Ça permettait de mieux vivre certaines choses qui pouvaient être difficiles au travail. C'est-à-dire qu'il y avait une autre vie que le travail. Maintenant, c'est vrai qu'on se définit là encore beaucoup au travers de son travail et de son activité professionnelle. C'est aussi ce qui fait partie socialement de la définition de chacun. Il y a aussi quelque chose qui, je crois, est important. C'est le fait qu'il y a une tertiarisation des entreprises. C'est-à-dire qu'avant, quand on était dans un monde industriel, les choses étaient relativement simples. C'est-à-dire qu'on était dans une logique hiérarchique. Maintenant, on demande à tout un chacun, dans beaucoup d'entreprises, donc surtout dans les entreprises de services, d'avoir beaucoup de types de relations avec les autres et notamment avec la clientèle. Et nous sommes tous des clients d'entreprises de services et nous sommes devenus de nouveau exigeants. C'est-à-dire, là encore, notre individualisme nous force à exiger pour nous-mêmes un service meilleur, plus important, alors qu'ils sont devenus en fait de plus en plus anonymes, n'est-ce pas ? Donc ces entreprises de services vivent très difficilement comme France Télécom, c'est clair, France Télécom est devenue une entreprise de services, je dirais, elle ne peut pas faire autrement.
Ce qui me permet de vous dire d'une façon un peu provocatrice qu'il semblerait que contrairement à ce que puissent dire les syndicats en matière de pénibilité dans le travail, c'est pas forcément celui qui a une pioche ou une clé à molette. Ça peut être aussi celui qui est dans les services et notamment dans le domaine de la vente.
Absolument, bien sûr.
Et donc ça, c'est une évolution que vous, psychiatre, vous ressentez comme forte.
Absolument. Et il y a un autre facteur qui me paraît très important, qui je crois a été aussi indiqué, c'est que ce qu'on appelle les managers, qu'on appelait les cadres, c'est-à-dire les gens responsables, ben je crois que dans leur grande majorité, ils savent pas gérer les hommes parce qu'ils n'ont pas appris à gérer les hommes. C'est-à-dire qu'ils ont été formés sur des choses qui sont très concrètes, avec beaucoup d'économies, beaucoup de finances. Mais ce qu'on appelle le management, finalement, est une espèce de trou noir où on met beaucoup de choses. Et je suis frappé, là, je parle en tant que consultant, par, je dirais, l'incompétence de beaucoup de managers à diriger leurs équipes. Et là, on tombe sur quelque chose qui est tout à fait surprenant, c'est la façon dont les entreprises, même celles du secteur public depuis quelques années, font appel à des consultants extérieurs. C'est-à-dire les entreprises et beaucoup d'entreprises ont appris à externaliser leurs compétences auprès de consultants. C'est-à-dire les managers, pendant ce temps-là, n'apprennent rien puisque ce sont les consultants qui font d'une certaine façon à la place des managers. Donc, paradoxalement, les entreprises sont devenues des endroits où on vit mal et où on s'occupe là aussi de moins en moins bien en interne du bien-être, je dirais de façon un peu naïve, des employés. Parce que ce bien-être a été externalisé aux consultants. Et ce qui est tout à fait, je pense, une évolution tout à fait surprenante.
Surprenante et dommageable, alors. Parce qu'en fait, c'est impossible de sortir de la spirale. Parce que si on délègue de plus en plus cette responsabilité première, on va dire, des dirigeants, quel que soit leur niveau, de manager, donc de ménager, puisque l'origine de management, c'est ménager et les hommes. Donc, il y a un effet pervers à la fois de l'externalisation et, comment dirais-je, et de l'utilisation extérieure d'experts.
D'experts et de compétences. Et le développement extraordinaire du coaching en entreprise est pour moi tout à fait le symptôme de cette externalisation. Parce que pour beaucoup de coachs, qui sont de plus en plus nombreux, il y a une certaine confusion qui s'installe entre un rôle qui, pour eux, peut être totalement corrélé au fonctionnement de l'entreprise et un rôle plus large de psychothérapeute. C'est-à-dire que les coachs ont beaucoup de leurs coachés qui sont en difficulté. Ces coachs ne savent pas toujours faire la différence entre la souffrance psychique, disons, au sens général du terme.
De la personne, en manière.
De la personne, de l'individu, et ce qui relève d'une problématique purement managériale. Et ça, c'est aussi une évolution relativement importante et récente.
Et là, vous avez un ordre professionnel qui tend à réguler un peu ou à gouverner un peu ces contradictions.
Il n'y a pas un ordre au sens où il y a un ordre des avocats ou des médecins, mais il y a des associations de coachs qui veillent effectivement au respect d'une certaine déontologie. Mais ce ne sont que des associations. Il n'y a aucune obligation légale à en faire partie. Mais il y a des associations qui ont à cœur d'exiger une certaine compétence et surtout d'exiger des règles déontologiques et notamment, entre autres, dans cette déontologie, de bien faire la différence entre ce qui relève du professionnel et ce qui relève, du personnel au sens psychothérapeutique du terme. Parce qu'il y a aussi les psychothérapeutes, même si par ailleurs, eux-mêmes sont plus ou moins en difficulté.
D'accord. Bien, et bien, écoutez, docteur, nous allons marquer une pause. Nous avons dressé le contexte général et nous allons maintenant revenir à la recherche de ces personnalités difficiles en entreprise, avec l'ouvrage que vous avez fait paraître chez Personne, « Les personnalités difficiles en entreprise, analyse et solutions » par le docteur Jacques-Antoine Malaribitz.
Goûtez l'histoire de la ratatouille, ce ragoût de légumes qui embaume le midi. L'origine du mot est déjà tout un plat. Chacun de ses composants et condiments, aubergines, tomates, courgettes, poivrons, oignons et autres, ont une origine amusante et intéressante à découvrir, où l'histoire, la grande, n'est jamais très éloigné. La ratatouille ou les avatars de la mondialisation des légumes, une émission de notre chroniqueur gastronomique Jean Vito à télécharger sur le site de Canal Académie.
Bien, chers amis, nous nous retrouvons pour notre entretien au fil des pages avec le docteur Jacques-Antoine Malaribitz. Nous venons de dresser le contexte général, de regarder quelques éléments d'actualité. Revenons maintenant au cœur même du sujet, qui est celui de décrypter, de trouver, de définir ces personnalités difficiles en entreprise. Alors, vous en avez recensé un certain nombre de types. Peut-être pouvez-vous, à travers quelques anecdotes, nous les dépeindre.
Tout à fait.
Entre autres.
Alors, effectivement, c'est un peu, je dirais, à contre-cœur que j'ai recensé des types parce que je n'avais pas vraiment envie précisément de catégoriser. Mais quand on travaille en entreprise, on entend ces types. Et plus exactement, on entend des diagnostics. C'est tout à fait surprenant. Hein. C'est-à-dire qu'il y a aussi un vernis psychologisant qui permet à beaucoup de dire d'un tel, par exemple, celui-là, c'est un pervers. Mmh. Ou celui-là, manifestement, est déprimé. Donc, il y a des termes qui circulent. Donc, j'ai repris ces termes, en tout cas les plus fréquents. D'abord, pour essayer de leur donner quand même, j'ai envie de dire, une consistance psychologique, voire psychiatrique. Et surtout, pour essayer, et ça, c'est pour moi ce qui était important dans cet ouvrage, de ne pas en rester uniquement précisément à un diagnostic. Parce que quand on diagnostique quelqu'un, quand on porte peu ou prou d'une certaine façon un jugement, on enferme également cette personne dans ce diagnostic. Donc, je décris assez longuement ce qu'on appelle l'effet Pygmalion, c'est-à-dire un effet qui a été décrit déjà dans les années 60 aux États-Unis et qui concerne d'abord et concernait d'abord les pédagogues, puisque ça a été décrit en pédagogie, dans l'esprit des professeurs. En gros, un professeur, s'il estime qu'un élève est bon, il va devenir un peu meilleur. Donc, la croyance du professeur bonifie ou au contraire, éventuellement, pénalise l'élève. Et il n'y a pas de raison que ça ne se produise pas en entreprise. Donc, quand dans un service, quand dans une entreprise, on considère que quelqu'un pose problème, ce quelqu'un peut ou prou avoir tendance, je dirais encore davantage, à poser problème. Donc, le diagnostic est en quelque sorte extérieur et ça devient un auto-diagnostic, dans la mesure où la personne s'identifie à ce diagnostic. Donc, il y a déjà une première attitude à prendre, c'est-à-dire prendre du recul vis-à-vis de ces diagnostics qui enferment la personne et maintiennent encore plus la situation.
Il y a un point peut-être qu'il faudrait que vous précisiez pour la clarté de votre exposé, c'est ces personnalités, pour vous, elles sont plutôt des dirigeants des numéros 1 ou des dirigeants, on va dire, jusqu'au chef de service. Vous, c'est bien cet ensemble.
On est bien
d'accord.
Vous
n'êtes pas en train de traiter de la pathologie, si je puis dire, du numéro 1, qui elle-même certainement appellerait de votre part un certain nombre.
Absolument. On avec pourrait faire certaines remarques. Bien sûr,
certaines
bien
remarques. Sûr. D'ailleurs, peut-être vous en direz peut-être un petit mot sur le numéro 1. On fera ça tout à l'heure. Alors, vous avez une dizaine de, même plus que ça, une quinzaine de types. Je ne sais pas s'il y a une hiérarchie dans le pire, c'est quoi, ou le moins pire.
Le plus banal, c'est le déprimé. C'est le plus banal. Parce que ça correspond au fait que dans notre société, par exemple, à un moment ou à un autre de leur vie, un quart des Français sont considérés comme étant déprimés.
Oui.
À un moment ou à un autre de la vie. Donc, c'est quand même beaucoup. Donc, je veux dire, de toute façon, des déprimés... Oui. Il y aurait beaucoup de choses à dire, effectivement, sur ce diagnostic de déprimé.
C'est d'ailleurs complètement corrélé à ce que vous disiez tout à l'heure en introduction avec la consommation de médicaments.
Absolument. Oui. Je dirais le pire, parce que je crois le plus discutable, c'est ce qu'on appelle le pervers et surtout le pervers narcissique. Parce que c'est tout à fait étonnant que depuis 2002, c'est-à-dire depuis la loi sur le harcèlement moral, ce diagnostic est devenu florissant en entreprise. C'est-à-dire, je l'entends très fréquemment. Et je crois que très souvent, quand même, c'est assez exagéré. Et c'est précisément très enfermant que quelqu'un soit considéré comme un pervers, et pire encore, comme un pervers narcissique. Donc ça, c'est le premier de ma liste, parce que je dirais que c'est là qu'il y a peut-être le plus de choses à dire en termes de prise de recul. Le dernier de ma liste, c'est le paranoïaque.
Alors, ça s'exprime comment, c'est le pervers narcissique? En gros, quels sont ses traits de comportement? Enfin, les principaux, c'est quoi? Donc,
Alors, on est bien d'accord, il y a une grande différence, et je dirais même chaque cas est particulier. D'accord. Donc, la description ne peut être que
c'est ça,
très générale.
Indicative.
Voilà, exactement. Donc, le pervers, c'est a priori quelqu'un qui manipule l'autre. Il va, de préférence, manipuler quelqu'un qui est fragile. Une des grandes difficultés avec le pervers, c'est qu'il est totalement imprévisible. C'est-à-dire, ce qu'on dit habituellement, c'est qu'il manie la carotte et le bâton.
Oui.
Il sera très gentil un jour, il félicitera son entourage ou une personne en particulier. Le lendemain, il sera exécrable. Et il est impossible pour les autres de faire un lien entre leur propre comportement et l'attitude du pervers. Encore une fois, même si ce terme est souvent outrancier et surtout enfermant. Donc, c'est vraiment la principale caractéristique du pervers, c'est son imprévisibilité. Autrement dit, d'une certaine façon, il est un manager qu'on ne manage pas, qui ne laisse rien transparaître de ses intentions et généralement de ses émotions. C'est quelqu'un qui est froid et c'est en cela qu'il est très manipulateur.
Ce que vous êtes en train de développer me fait penser à la chose suivante, c'est que il doit être tout ceci, tous ces comportements tels que celui que vous venez de décrire, à savoir le pervers narcissique, qui sont quand même vraiment extrêmement déviants et qui doivent être quand même connus assez rapidement, sont plus ou moins tolérés dans l'entreprise. Et donc, il y a probablement une relation avec le patron, voilà, en quelque sorte, ou l'équipe de direction, enfin la culture de management de l'entreprise. Donc, tout ceci interfère.
C'est-à-dire que le pervers et, dans une moindre mesure, ce qu'on appelle le manipulateur, peuvent être aussi effectivement utilisés par l'entreprise parce qu'ils peuvent servir à des tâches
difficiles pour d'autres. C'était sur ce point que je voulais vous faire venir.
Bien sûr, c'est-à-dire, il y a quelque chose de
permissif. Terrible,
bien sûr, de très permissif et même d'encourageant. C'est-à-dire, il y a des fonctions ou il y a des rôles dans une équipe ou plus largement dans l'entreprise qui peuvent être plus facilement, entre guillemets, attribués. Et ça n'est pas nécessairement quelque chose d'intentionnel, n'est-ce pas? C'est une espèce de logique qui s'instaure à des personnes qui sont dures, qui sont froides, qui sont imprévisibles et qui, dès lors, maintiennent une certaine tension, surtout, encore une fois, dans un contexte où il convient de maintenir cette tension pour des raisons tout simplement de rentabilité.
De stress, parce que le stress n'est pas toujours complètement négatif, d'ailleurs. Hein.
Bien sûr.
C'est l'intensité du stress. Pour vous, il y a un stress positif.
Alors, c'est ce qu'on dit généralement. Hein. Ça, c'est le grand classique à propos du stress. Mais je crois qu'on est généralement bien au-delà de ce en quoi un stress est positif dans le monde des entreprises en général. Ça me paraît assez évident.
Vous préfériez parler d'encouragement actif
il y a une chose qui est très importante dans l'entreprise, c'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance. C'est-à-dire de se sentir reconnu, tout simplement, je vais dire ça un peu simplement, en tant qu'être humain, existant, étant capable d'avoir des idées, d'avoir des émotions, de penser, de prendre des initiatives, de faire des choix. Et ça, c'est extraordinairement important. La reconnaissance, et c'est d'ailleurs totalement corrélé avec l'individualisme, c'est-à-dire le pendant positif ou ce qui nourrit l'individu en général et notamment dans l'entreprise, c'est cette reconnaissance et les besoins de reconnaissance sont extraordinairement importants.
Et donc, ce que vous disiez tout à l'heure, que probablement la culture managériale est faible dans les entreprises. Et donc, vous pensez que c'est sur ce point particulièrement où le management, on va dire français, parce que je suppose que vos exemples sont plutôt pris sur le plan national, c'est là où il y a un déficit. Mais ça s'apprend, la façon de dire, on apprend aux enfants à dire merci. Est-ce qu'on apprend aux
dirigeants ? On devrait apprendre dans les grandes écoles, dans les écoles de commerce. On devrait apprendre, je dirais tout simplement, l'humain, c'est-à-dire ce qu'est la relation humaine. Comment, entre guillemets, fonctionne l'être humain, ce dont il a besoin, par exemple, cette reconnaissance.
Mais est-ce que l'expérience n'est pas pour beaucoup dans cet apprentissage et pas simplement... Est-ce qu'on peut l'apprendre simplement de façon théorique ? On peut sensibiliser, mais est-ce que ce n'est pas à l'expérience que les choses se rodent ? Et donc, ce qui veut dire, c'est dans le sens de ma réflexion, ça suppose formation permanente.
Absolument.
Il y a formation initiale, effectivement, où on peut sensibiliser, mais après, c'est à l'épreuve du feu que les choses se passent. Et peut-être que c'est là qu'il y a un certain déficit, c'est-à-dire d'entretenir cette culture initiale. Je vous passe la...
Tout à fait, je suis parfaitement d'accord avec vous. Je pense que pour le moins, il faudrait que les étudiants ou ceux qui se destinent à diriger des hommes,
grandes écoles, en fait, etc., de commerce,
soit pour le moins sensibilisés à cette dimension-là, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, c'est clair. Donc effectivement, cette sensibilisation ne peut pas avoir la prétention de se résumer à une formation, point, c'est tout, vous avez raison. Il faut vivre cela dans le quotidien. Mais là encore, ce que disent souvent ces managers, parce que non seulement ils n'ont pas appris, mais ils n'ont pas le temps.
Oui,
parce que l'idéologie est qu'on n'a pas le temps de s'occuper de l'humain, n'est-ce pas ? Parce qu'on a né dans le guidon. Et chacun, d'une certaine façon, est logé à la même enseigne. C'est-à-dire que les managers eux-mêmes vivent très mal. Il n'y a pas que leurs subordonnés ou les membres de leurs équipes. Tout le monde vit très mal. Même, je dirais même, les dirigeants, n'est-ce pas ? Donc, c'est en quelque sorte tout le système qui
tourne à l'envers. En quelque sorte.
Oui, c'est-à-dire qui fonctionne au mépris de l'homme, au mépris de l'humain.
Très bien. Alors, passons quelques autres. Avez-vous quelques anecdotes un peu amusantes sur ces types de...
Amusantes, je ne sais pas.
Amusantes, enfin, en tout cas, amusantes pour l'auditeur.
Oui.
Certainement pas pour celui qui est dans cette situation-là. En tout cas, bon, original.
Hein. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un type de personnalité qui n'est pas toujours difficile, mais qui peut être intéressant, c'est le caractériel. Le caractériel, vous me posiez la question tout à l'heure, peut plus facilement être un dirigeant, n'est-ce pas ?
Oui.
C'est-à-dire un numéro un. Bon. C'est-à-dire quelqu'un qui, je dirais, là aussi a une certaine instabilité, mais au niveau de ses humeurs. C'est-à-dire, là aussi, il peut éclater, il peut menacer de sanctions. Et puis, ce qui est entre guillemets intéressant, c'est que le lendemain ou 3 heures après, il a totalement oublié. Donc, c'est quelqu'un qui, dans son imprévisibilité, est prévisible, n'est-ce pas ? Et même, d'une certaine façon, attachant, parce qu'il y a quelque chose de très infantile chez le caractériel, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, il boude, quoi. Il boude ou il se met en colère, il fait sa petite colère... Ça dure 5 minutes, 1 quart d'heure, etc. Donc là, c'est quand même quelque chose qui se retrouve plutôt en haut de l'échelle, n'est-ce pas ?
D'accord.
D'autant plus que le dirigeant, a priori, personne n'est là pour lui dire, mais...
Mais c'est pas bien.
C'est pas bien, il faut arrêter.
Toute la nécessité, justement, des contre-pouvoirs.
Exactement, exactement.
Ah, c'est absolument. Les dirigeants qui se privent, finalement, de contre-pouvoirs, soit en organisant leur propre conseil d'administration, soit en subordonnant totalement les équipes de direction, finalement, c'est à eux-mêmes qu'ils se font du mal, puisqu'un jour, comme on dit vulgairement, ils pètent un plomb. Et on en a quelques exemples, quelques rares exemples, hein, d'ailleurs, Dieu merci. Mais c'est probablement, effectivement, et vous le confirmez, en raison de l'absence de contre-pouvoirs.
Là, je crois que c'est un terme important parce que dans le fond, qu'est-ce que c'est que le management ? C'est gérer le pouvoir, n'est-ce pas ?
Absolument.
C'est comment faire avec le pouvoir qu'on peut avoir sur les autres. Et ça, c'est une autre façon de dire et de redire cette question de la formation. Les gens, je crois que c'est assez partagé dans notre société, ne savent pas faire avec le pouvoir. Ils en usent ou en abusent, ils ne prennent pas de recul par rapport à leur pouvoir. Et effectivement, ils peuvent mal vivre le contre-pouvoir. Et c'est comme si ces entreprises du tertiaire dont je parlais tout à l'heure fonctionnaient en fait sur un modèle encore industriel, c'est-à-dire uniquement hiérarchique. C'est-à-dire qu'ils ne tiennent pas compte, je vais utiliser un grand terme, de la complexité de l'être humain. Encore une fois, souvent pour des questions de temps. Et le problème essentiel, effectivement, c'est l'exercice du pouvoir.
L'exercice du pouvoir, c'est un véritable problème. Nous avons déjà bien avancé dans le temps imparti pour cet entretien. On va peut-être conclure en vous posant une question redoutable, de dire quels sont les 3 conseils que vous donneriez à nos auditeurs. Alors, les managers, qui eux-mêmes, pour se regarder un peu mieux dans la glace, et de façon plus générale, on va dire à la direction générale d'une entreprise, pour appréhender le niveau de problème qui existe dans leur entreprise. Alors, peut-être en comptant le nombre de personnes, de personnalités difficiles, mais enfin, il y a certainement d'autres choses. Enfin, deux, trois idées, qui vous viennent en tête.
Ce qui me vient d'abord, c'est là, encore une fois, je parle en consultant et plutôt influencé par ma formation de psychiatre et de médecin, c'est que je crois vraiment que les problèmes en entreprise sont d'abord des problèmes humains. C'est-à-dire on fait comme si les problèmes étaient économiques, financiers, industriels, commerciaux, etc. Mais les vrais problèmes, là où ça coince, c'est au niveau humain. Et il faut absolument s'en occuper. Il ne faut pas attendre, comme le président de France Télécom, qu'il y ait 22 ou 23 suicides pour dire « tiens, on va s'occuper de la dimension humaine ». Alors ce qui est gênant, c'est que ça paraît à la fois évident. Je veux dire, je ne connais personne qui dirait le contraire. Personne ne va dire « je suis un manager inhumain ». Mais il faut vraiment s'y mettre. Et ça se joue, encore une fois, vraiment au niveau de la formation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut du temps. C'est que je crois que la plus grande des violences dans notre société en général, et dans les entreprises en particulier, c'est qu'on ne prend plus le temps de prendre du recul, de s'occuper des autres, d'écouter des autres, d'écouter les autres. Et notamment dans cette succession qui, évidemment, a beaucoup de causes, notamment des causes qui sont à l'extrême dans la mondialisation, mais cette succession de changements constants. C'est-à-dire, on fait comme si tout le monde pouvait s'investir dans quelque chose de nouveau, alors que ce qui n'a pas
la même vitesse,
à la même vitesse, on ne peut pas, en fait, on ne peut pas effectivement, émotionnellement, investir sans prendre le temps et sans donner une dimension de durée. Et ça, je crois que c'est vraiment la dimension la plus violente dans les entreprises, le manque de temps.
En résumé, donc, vous nous dites que les entreprises ont les personnalités difficiles qu'elles méritent.
Oui, et comme la société d'ailleurs.
Comme la société, et pour les élites d'une façon beaucoup plus générale. Et que donc chacun peut apporter sa pierre en prenant conscience d'une part de cette réalité et par ailleurs en prenant le temps, et deuxièmement en se formant en continu. Cher docteur Jacques-Antoine Malarivitz, je vous remercie une nouvelle fois pour cet entretien. Je renvoie nos auditeurs vers votre ouvrage qui est absolument captivant, « Les personnalités difficiles en entreprise, analyse et solutions », paru chez Personne, 182 pages, à trouver chez toutes les bonnes librairies. Merci à vous, cher docteur,
merci.
Et à très bientôt.